Bienvenue à toutes, hein. Ravie de vous accueillir. Je suis Delphine Aboulker, je suis vice-présidente de l'association Les Talentueuses. Je suis à l'origine de ces ateliers Réparer le Monde. Avant de démarrer, je vais juste redire deux mots de notre association Les Talentueuses. Notre baseline, c'est des femmes qui font bouger les lignes. On est 400 femmes aujourd'hui, des trois fonctions publiques, donc à la fois fonction publique d'État, territoriale et hospitalière, basée sur tout le territoire, tous les corps de métier. Certaines travaillent dans l'État central, d'autres dans des services déconcentrés, d'autres dans des unités opérationnelles. On a toutes suivi pendant un an un programme de coaching qui s'appelle donc Talentueuse, organisé par la Direction interministérielle à l'encadrement supérieur et l'INSP. Et l'idée, c'était de faire progresser l'intégration des femmes, leur visibilité, dépasser les plafonds de verre, faire progresser la parité homme-femme dans les postes de direction. Notre association, qui est donc toute jeune, elle a une double vocation. Elle a d'une part vocation à créer un réseau d'entraide, de solidarité, de partage d'expériences avec les événements du type petit déjeuner métier, justement ce dont je parlais, un annuaire en ligne pour mieux nous connaître et créer du réseau, partager les offres d'emploi. Par ailleurs, l'idée, c'était aussi de dire que c'était un réseau qui permettait de réfléchir ensemble à l'intérêt général pour construire des nouvelles solutions, pour réfléchir ensemble et mettre en commun nos parcours, notre diversité. C'est dans ce cadre-là que j'ai proposé la création de ces ateliers Réparer le Monde, qui sont donc du coup des ateliers de réflexion et d'action, des petits ateliers d'innovation pour réfléchir aux services publics de demain, autour des grandes transitions, donc transition écologique, transition numérique, innovation sociale, rapprocher le citoyen des territoires, etc. La méthode des ateliers, c'est que chacune d'entre nous peut proposer d'inviter un ambassadeur ou une ambassadrice qui puisse faire un retour d'expérience sur le projet qu'il a déployé. Ça peut être des directeurs d'associations, de collectivités, ça peut être des projets qui ont été faits dans le cadre de la politique de France 2030, des projets PIA, des projets d'opérateurs de l'État, etc. Et l'idée, c'est que vous, donc les intervenants, puissiez nous présenter à la fois le projet, bien sûr, mais également les freins auxquels vous êtes confrontés. Pourquoi est-ce que souvent vous n'arrivez pas à passer à l'échelle? Quels sont aussi les leviers de réussite? L'idée, c'est que vous puissiez vraiment formuler vos besoins pour que nous, ensuite, on puisse capitaliser sur la diversité de nos parcours pour potentiellement vous aider à débloquer ces freins et puisse ensemble réfléchir à des solutions concrètes pour passer à l'échelle. Donc, on est très heureux de démarrer ce premier atelier Retex avec toi, Nicolas, qui, donc, je fais une présentation très succincte, qui est lauréat du palmarès des jeunes urbanistes et économistes, qui est fondateur du collectif Yes Week Camp, qui a créé un diplôme universitaire Espace Commun, et qui est aujourd'hui un des acteurs clés d'urbanisme transitoire, avec notamment des projets tels que Les Grands Voisins à Paris, le parc Foresta à Marseille, et plusieurs projets en ruralité. On va te laisser la parole, Nicolas.
Très bien, je me lance. Merci de cette invitation, Delphine. J'espère que je peux apporter quelque chose d'intéressant à cette démarche que vous avez mise en œuvre. Et c'est intéressant parce que tu as ouvert vraiment sur la question du service public, et c'est comme ça que j'ai nommé ma petite préparation pour aujourd'hui, là, en nous nommant nous-mêmes. Nous, donc, je vais parler au nom de Yes Week Camp, un acteur associatif à but non lucratif. Je vais vous présenter ce que l'on fait et aussi pourquoi on le fait. J'ai reçu d'ailleurs de la part de Delphine un ensemble de questions là qui avaient été posées lors manifestement d'une pré-instruction d'une préparation du moment qu'on a maintenant. Il y avait beaucoup de questions assez précises, mais je vais essayer de commencer par un propos un peu global et après dans le temps de questions-réponses, on pourra rentrer dans des éléments plus de montage de projet. Mais voilà, nous on se considère volontiers comme complices de politique publique. C'est vraiment une passion qu'on a dans la structure, et je pense, je vois que du coup on la partage avec vous depuis l'institution et puis nous depuis la société civile. Est-ce que l'on sait bien faire et qui peut être utile dans des dynamiques d'intérêt général, c'est de mobiliser les personnes, les habitants, les riverains, les citoyens, les usagers, de manière à les faire participer à nos projets, donc parfois sous des formes très formalisées de bénévolat, encadrées, mais même de manière plus générale de participer à la conception et à la vie de nos projets. Et on a aussi une autre particularité, c'est de produire notre propre économie. Donc on vient quelque part cofinancer des politiques collectives d'intérêt général. Donc, Yes Week Camp, aujourd'hui, on est une structure, on existe depuis 12-13 ans. On est né à l'occasion de la capitale européenne de la culture à Marseille. Le siège est toujours à Marseille, mais on a des projets en gestion directe à Marseille et Paris, et en accompagnement dans plein de régions de France. Et on est à peu près stable en termes de volume d'activité économique à 5 millions d'euros. Donc c'est très petit par rapport au budget et aux tailles institutionnelles. Mais pour une orga qu'on a créée, voilà, il y a pas longtemps et qu'on fait vivre, on fait partie quand même des structures qui ont une sorte d'ampleur nationale et une capacité d'investissement, d'engagement sur des territoires entre 50 et 100 personnes salariées. On est très, vous allez voir, enfin, on aborde beaucoup la question des temporalités. On fait des projets qui ont une durée de fin, en ouvrant des lieux transitoires. Donc, ça veut parfois dire que quand on ferme un lieu, il y a 20 personnes qui doivent sortir et une sorte d'accord tacite d'arrêter les CDI à ce moment-là, quand on finit les projets avant d'en réouvrir d'autres. Mais je voudrais d'abord faire, j'espère que vous avez un écran devant vous, parce que je voudrais montrer toute une série de photos sans forcément rentrer dans le détail du montage des projets, mais moi, ça va me permettre de vous partager un peu l'univers dans lequel on évolue. Et j'espère que ça, quelque part, ça créera, enfin, ça vous donnera une forme vous ferez votre idée de ce que l'on fait en traversant un peu ces différents projets. Donc, je vais assez vite volontairement. Là, on est à Venise. C'est au moment où on a été présenté à la Biennale d'architecture. Et on s'est dit, ça suffit pas d'être dans les giardini. Il faut qu'on fasse un projet pour de vrai. On a pu récupérer cette caserne militaire pour une durée de 8 mois. Ce qui nous a permis d'accueillir des milliers de personnes pour toujours des moments de travail, hein, des séminaires de travail sur le site. On pouvait être 80 à dormir. Et pendant les 8 mois, il y a eu différents groupes français qui sont venus travailler sur site. Là, on est dans les Cévennes où un maire nous a dit, est-ce que comme je vous connais, s'il vous plaît, venez m'aider à sauver mon dernier commerce, passez l'été chez nous, faites un peu ce que vous voulez, on vous prête une maison. Et depuis, le commerce a trouvé un repreneur et n'est pas mort. Et le village n'a pas perdu sa licence 4. Ici, on est sur les territoires des quartiers nord de Marseille, donc en proximité de plusieurs grosses cités, enfin, vraiment un territoire abîmé où il y a des enjeux forts de précarité, de santé, d'alimentation. Et sur cet espace très grand, hein, 16 hectares, nous, on a construit tous ces équipements que vous voyez. On a progressivement transformé ce terrain vague en un endroit de pratique sociale, vous voyez beaucoup sur les photos, et vous allez beaucoup le voir, beaucoup de temps d'échange. Il y a toujours cette idée de faire progresser en même temps l'infrastructure physique et l'infrastructure sociale. La transformation de l'espace, pour nous, c'est un outil pour mobiliser les riverains, leur donner envie d'être là, créer de l'adhésion. Voilà, c'est des femmes de la cité de la Bricarde. Nous, on aimerait bien faire un four. On a fait un premier, un deuxième, un enterré, un sur terre. Après, il prenait la pluie et trop de soleil. Donc, on construit cette espèce de paravent parapluie. Et quelque part, toutes ces constructions, nous, on les fait au service de la dynamique sociale pour créer de l'engagement et espérer que les personnes sortent d'une posture passive, en se considérant eux-mêmes soit juste comme bénéficiaires de la politique publique ou clients quand ils en ont les moyens du marché. Et nous, on cherche à mettre voilà, tout le monde en position de coproducteur. J'avance, hein. Ici, on est dans une ancienne auberge de jeunesse à Marseille, qu'on a récupérée il y a 4 ans maintenant, et qui aujourd'hui a été transformée en foyer d'hébergement d'urgence pour femmes. Et dans les foyers d'hébergement d'urgence, là, il y a 70 places. En général, la consigne, c'est de se faire livrer des repas de l'extérieur. Et nous, on a obtenu l'autorisation avec la préfecture de cuisiner sur place. Et c'est un vrai outil du travail social, le fait de cuisiner sur place avec les femmes. C'est un endroit où on peut parler. Et donc, nous, on a une équipe salariée de Yes We Camp de cuisine, mais qui vient faire le travail, encadrer les femmes pour les accompagner à elles-mêmes cuisiner, et puis parfois avoir des dispositifs de vente en format traiteur. C'est un endroit qui a un grand jardin, qui est un peu en friche, mais on l'a remis en vie. Et avec les femmes, on fait des assemblées toutes les semaines, des agoras, où on décide comment on travaille, comment le lieu doit vivre avec les enfants, avec le voisinage. Et nous, par rapport à des structures classiques de travail social plutôt en silo, on vient essayer de créer de l'échange, de la rencontre avec le quartier. Là, on est dans un quartier plutôt qui va bien, plutôt chic, on n'est pas dans les quartiers nord. Et les riverains jouent le jeu, il y a énormément de personnes qui viennent, et il y a des habitudes festives qui ont été prises. Il y a régulièrement en été des soirées, des journées ouvertes, des tournois de pétanque, beaucoup de personnes du quartier qui viennent accompagner en cuisine, donner des cours, faire du soutien scolaire, faire des aménagements collectifs dans le parc. Voilà quelques images des grands voisins. Delphine, tu l'as cité, effectivement, ça a vraiment été un projet manifeste, hein. Donc, c'est le quartier Saint-Vincent-de-Paul qui est en renouvellement. Ça devait être vide, comme souvent quand on travaille des questions d'urbanisme. Et plutôt que ce soit vide, on a proposé, enfin, à plusieurs, hein, on travaille souvent de manière partenariale, à ce que les anciennes chambres de l'hôpital servent à héberger des personnes qui étaient à la rue. Donc, il faut quand même se dire que sur l'enclave des grands voisins, il y a eu 400 SDF et 400 travailleurs migrants qui ont été accueillis. Donc 800 personnes, c'est vraiment colossal en termes de volume. Et tout s'est très bien passé parce que c'est notre approche hybride qui le permet, je pense. C'est que en parallèle de ce travail social qui peut effrayer hein, un voisinage quand on installe ces programmes d'hospitalité, mais comme nous, on vient les coupler avec du travail d'une forme de pratique publique des espaces, le lieu devient un parc au bénéfice des familles. Tout est fait ensemble et de manière participative avec les hébergés, avec les voisins. Et on accueille aussi plein d'activités économiques parce que dans les locaux rendus disponibles là par le processus de transformation urbaine, nous, même si les temps sont courts, de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on trouve à chaque fois, on remplit toujours 100% de nos mètres carrés, des centaines de structures qui viennent s'installer sur les sites. Donc ça veut dire que c'est des sites où, en plus du travail social, il y a de l'activité économique, artisanale, culturelle, artistique, et toute une série d'événements de l'hébergement en mode camping au cœur de Paris, et un certain talent qu'on a à organiser des événements collectifs qui ne nous coûtent pas trop cher à organiser, mais qui font vivre nos lieux et la vie de quartier. Voilà, la question de chronotopie d'usage, toujours comment est-ce qu'un même endroit, là, cet endroit-là, le soir, il accueille des grosses fêtes, mais en journée, on peut en faire d'autres usages. Donc des espaces intérieurs, des espaces extérieurs, et encourager aussi la petite économie, enfin que les personnes qui veulent développer des petits business, nous, on les accompagne pour qu'elles puissent le faire. Donc bon, j'avance un peu. Oui, il y a vraiment eu le Covid, nous, a eu un impact très fort sur. On a en permanence une petite dizaine de lieux à Paris et Marseille. Et sur tous nos lieux, pendant la période Covid, il s'est passé beaucoup de choses. On a produit de l'aide alimentaire, on a fait de l'accueil, on a ouvert aussi une sorte de Club Med à Marseille, là, le Village Club du Soleil, qu'on a transformé en hébergement d'urgence. Et ça a accéléré des dynamiques de coopération la période Covid. Là, c'est assez intéressant ce projet. On est vraiment derrière l'Arche de la Défense, donc sur l'opération d'aménagement urbain, hein, et on a un grand terrain de 10 000 mètres carrés qu'on a depuis 10 ans. Là, on va arrêter cette année, mais ça fait 10 ans qu'on était sur place. La terre était assez polluée, donc on n'allait pas payer la dépollution nous-mêmes. On a mis un textile, on a fait venir de la terre, on a fait venir tous les camions qui étaient en train d'excaver les terres pour la construction des stations du Grand Paris Express. On a pu planter plein d'arbres après avec les écoles, après avec les riverains. Et l'endroit est depuis une dizaine d'années une sorte de jardin urbain. Là encore, c'est intéressant. C'est pas un équipement municipal dans le sens où il n'est pas géré par la mairie, mais c'est vraiment perçu comme un espace public. Et nous, on l'appelle d'ailleurs un espace commun dans le sens où l'espace est une ressource et on doit tous en prendre soin. Nous, on explique aux gens quand ils viennent que y a pas les services de la métropole qui viennent faire le nettoyage. Donc la propreté et la qualité du site dépend du soin qu'on y met tous. Donc il y a beaucoup de liberté. Les gens peuvent venir faire des barbecues, organiser des événements, mais on attend d'eux qu'ils se comportent d'une manière constructive, de co-prendre soin de cet espace de lien social. Parfois, on voit plus loin, jusque-là sur la ZAC de Bercy-Charenton, on a carrément fabriqué des bâtiments avec une forte dose de réemploi. D'ailleurs, on n'a même pas trouvé d'entreprise pour le faire, on l'a fait nous-mêmes finalement parce que les entreprises ne voulaient pas engager leur garantie décennale, tellement on a travaillé avec des gisements de matériaux en réemploi. Et voilà, peut-être un dernier, je crois, on voit le bruit Bercy derrière, là on est au bord de la Seine, donc on est vraiment dans des endroits assez symboliques, hein. Et dans cet endroit, dans 4 000 mètres carrés, on a accueilli un accueil de jour. Donc à chaque fois, le travail social, il n'est pas fait par nous, hein. Nous, on est ensemble, on gère l'espace, et les fonctions sociales, elles sont opérées par des spécialistes, là c'est l'association Aurore, et qui, voilà, c'est un gros accueil de jour, 300 personnes par jour. Et pareil, c'est des fonctions en général, c'est difficile de les localiser dans un territoire parce qu'il y a des résistances. Mais quand ça vient avec notre proposition, où il y a des ateliers, de la participation, une dimension festive, un bar, des concerts, des soirées, des conférences, c'est beaucoup mieux accepté par le voisinage. Voilà, mais quelques dernières images. Là, c'était notre création à Marseille pour la capitale de la culture. Et j'aime bien ce projet là qu'on a fait en Ardèche l'été dernier pour montrer qu'on n'est pas seulement urbain, mais cette mécanique de faire ensemble, là, en une semaine de chantier boost, en travaillant avec les habitants du village, on a construit une sorte de salle polyvalente de plein air avec des tables, une scène, une estrade dans un lieu qui, du coup, aujourd'hui est utilisé par les habitants. Voilà, le théâtre de Chaillot aussi, j'en parlerai peut-être tout à l'heure là, parce que c'est intéressant de voir qu'on n'intervient pas seulement dans des bâtiments vacants, mais aussi dans des équipements publics existants, en se demandant comment est-ce qu'ils peuvent, à peu de frais, augmenter leur utilité collective par le simple fait d'ouvrir les espaces sans forcément qu'il y ait une programmation culturelle, ce qui est toujours un peu déroutant quand on est un théâtre, de se dire qu'on peut ouvrir le théâtre comme un équipement public sans avoir une programmation directe. Donc, à travers toutes ces photos, moi, ce que je peux vous partager, c'est que c'est notre intention profonde et qu'on pourrait résumer avec ce petit schéma très très simple, c'est de se dire que nous tous, habitants de cette planète, on a un peu là où on est situé, hein, enfin, nos habitudes, nos compétences, notre statut social. Donc ça, c'est le rond blanc sur la photo qui est plus ou moins grand. Mais quelle que soit la taille de notre rond blanc, nous, le pari que l'on fait et que l'on vérifie un peu à chaque fois, c'est que on est tous prêts à faire un peu plus, à aller vers la rencontre, à aller vers l'ailleurs, à apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouvelles personnes. Mais ce qui nous manque, c'est l'accompagnement pour le faire, parce qu'on est, je sais pas si j'aurais le temps de développer trop, mais dans une société aujourd'hui qui se caractérise par de la défiance, de l'inquiétude, de la défiance envers les institutions et un déficit de confiance. Donc nous, avec tous nos lieux, tous nos dispositifs, on vient révéler là, ce qu'on appelle nos capacités, notre capacité collective, nos capacités inventives et solidaires. Et donc notre métier principal, après j'espère vous partager que c'est peut-être plus une méthode qu'un métier, mais le métier principal, et c'est 80% de notre économie, c'est de gérer des endroits. Donc là, le parc dans les quartiers nord, l'emprise des grands voisins. Donc, vous pouvez voir que c'est des gros bâtiments quand même. Coco Velten à Marseille, 4 000 mètres carrés, la fameuse caserne à Venise. À la Défense, les 10 000 mètres carrés de pleine terre, un projet qu'on a fait à Marseille dans un bâtiment assez grand, 12 000 mètres carrés, le fameux accueil de jour face à Bercy, l'auberge à Marseille. Bon, j'avance. C'est pas les deux projets qu'on vient d'ouvrir, un ancien couvent à Marseille, et puis là où je suis aujourd'hui, on a nos bureaux 4 200 mètres carrés le long du vieux port à Marseille, où on fait aussi l'accueil de jeunes migrants. Mais voilà, après, ce qui est important de dire, c'est qu'on peut aussi intervenir dans d'autres endroits, dans des parcs, dans des cours d'école, sur la terrasse du Mucem, dans des bâtiments publics ici à Bordeaux. Vous aviez dans les questions de quelle est l'utilité, où commence et où s'arrête Jesu Camp. J'ai ce petit graphique là, une sorte d'équation où nous on fait les lieux, donc ce qui est au cœur là, et nos lieux, ils produisent cette capacité collective. On produit de la dynamique locale, de l'entraide, du bénévolat, beaucoup d'entrepreneuriat. Hein. Il y a beaucoup de petites entreprises qui naissent dans nos lieux et une fois que nos projets finissent, qui ensuite vont dans le monde réel. Et ce qu'on espère ensuite, c'est que ça fait la démonstration à échelle 1, sur des tailles les plus grandes possibles, d'une autre forme d'organisation économique et sociale que celle que l'on connaît dans notre monde conventionnel. Et une organisation où il y a davantage de coopération, davantage de mutualisation, où on utilise au maximum les matériaux existants sans avoir à en construire des nouveaux. Et finalement, c'est un peu la création de communs que l'on fait dans nos lieux, en espérant derrière, et c'est la petite flèche qui va en pointillé vers le reste, mais c'est là une transformation systémique de différents métiers, de l'urbanisme, de la question d'habiter, du travail social, de l'architecture, et aussi les notions d'apprentissage et de la notion de ville apprenante qui nous est très chère. Et nous, notre carburant pour tout ça, c'est les lieux, c'est l'outil, mais le carburant, c'est l'énergie des personnes, de vous, de moi, de nous, qui viennent s'engager dans nos dispositifs parce qu'ils ont une envie de prendre part, d'agir, qui souvent vient, mais c'est ça qui est intéressant, ne vient pas d'une unique. Souvent, ça vient de la part d'une forme de frustration, mais qui peut être, nous, on a des militants écologistes, autant que des militants sociaux. Qui viennent dans nos projets parce qu'on retrouve ces différentes composantes. Et nous, peu importe quelle est la raison pour laquelle les gens ont envie de prendre part, ça peut même être l'ennui ou la curiosité. Ce qui compte, c'est qu'on mette en place ce réacteur. Voilà, donc je vous ai déjà dit pas mal de choses. Si on avait le temps, mais je passe un peu vite, on verra, mais on vient. Pourquoi est-ce que l'on fait ça? Si on tâche de prendre du recul, on voit qu'aujourd'hui, il y a le récit dominant, produit de l'impuissance, et que c'est dangereux. Je pense que vous travaillez dans l'institution, vous le savez, mais de la même manière qu'on a identifié que les dérèglements climatiques et la non-action sur la transition écologique peut nous coûter très cher à la fin, jusqu'à remettre en cause les mécaniques démocratiques. C'est pareil avec la fragmentation sociale. Si on n'agit pas sur la fragmentation sociale, ça va nous coûter cher. Une société violente ou une société du repli, c'est une société qui coûte plus cher qu'une société qui va bien. Donc on a une responsabilité préventive, une responsabilité à limiter les dégâts. Et je trouve que c'est intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on voit que quand on casse, quand on abîme et qu'on enlève des dispositifs de soins collectifs, il y a des effets à court terme et il y aura aussi des effets à long terme parce qu'il faudra bien un jour réparer ce qui a été abîmé. Et aujourd'hui, quand on écoute les professionnels sur la Croix-Rouge, le baromètre de la fraternité, il y a une forte augmentation de la défiance envers les institutions, de la solitude, de l'isolement. Et ça, c'est des mots où on se dit, bon, bah, ok, il y a des personnes qui sont seules. Mais en fait, ça nous coûte cher collectivement en termes de santé et en termes d'organisation. Et ce qui nous manque, en fait, c'est des espaces de lien, parce que ce qu'on a vécu depuis 50 ans, c'est on peut l'appeler un déséquipement massif des infrastructures structurelles, relationnelles, pardon, les infrastructures relationnelles, les lieux de culte qui ont chuté, la pratique syndicale qui a chuté, les colonies de vacances, il y avait 4 millions de gamins avant qu'ils les aient, maintenant il y en a moins d'1 million. Donc tous ces protocoles, ces mécanismes qui étaient un peu institués dans la vie au XXe siècle, aujourd'hui sont très abîmés, et tout ça étant augmenté par le numérique. Donc voilà, après, on a de la chance d'avoir des beaux métiers comme les vôtres dans les administrations, sur toutes les thématiques de l'urbanisme qui se soucient de continuer à faire exister des espaces de partage. C'est un métier qui doit évoluer, hein. On sait plus seulement de désigner quel mètre carré va être lié à quelle fonction, mais plutôt d'organiser davantage d'hybridité. Et nous, notre grande réjouissance dans tout ce que l'on fait, c'est de nous rendre compte qu'on a un gisement extraordinaire, une ressource de temps des personnes. En fait, là aussi, les chiffres, enfin, en 60 ans, on vivait 500 000 heures en moyenne, on vit 700 000 heures maintenant. Donc, on a 200 000 heures qui ont été gagnées en 2 générations. Et on a pas mal d'outils, des machines à laver, des lave-linges et tout, qui nous ont aussi libéré un certain temps des tâches domestiques. Donc, on a du temps. Après, où est-ce qu'on le met ce temps et quels sont les protocoles qui peuvent être mis en place pour utiliser ce temps individuel pour un temps de bénéfice collectif. Voilà, donc nous, notre équation, c'est celle-ci, on intervient sur l'espace, donc les mètres carrés, pour créer du temps de présence et du temps d'engagement, c'est les heures, donc les mètres carrés créent des heures, et l'addition de ces engagements individuels crée de la capacité collective. Et qui vient compléter l'action publique. Il y a une partie de ce qui est fait aujourd'hui dans des dynamiques en silo, enfin descendantes avec des fonctionnaires des trois administrations. Il y a une partie de ce travail-là qui peut être produite collectivement par une autre forme d'organisation. Moi, par exemple, quand je rentre chez moi le soir à 23 h et que je marche sur le trottoir, je produis une forme de sécurité. Je suis pas salarié de la municipalité pour le produire, mais si on organise, il y a d'ailleurs dans les villages avant ou dans plein de pays aujourd'hui, la manière dont est structuré l'espace commun, l'espace public, produit du service, produit de l'agrément et puis la cohabitation entre des enfants et des personnes âgées. Dans les deux sens, il y a des sortes de réciprocités naturelles qui peuvent se créer. Et nous, c'est ça que l'on regarde et que l'on cherche. Donc concrètement, on prend des lieux disponibles, soit parce qu'ils sont vides, soit parce qu'ils sont sous-utilisés. On choisit d'y mettre plein d'usages. Donc là, on est assez malin, hein, en fonction du territoire ou du bâtiment, du contexte bâti. On va pas vouloir faire la même chose, mais on va toujours retrouver de la solidarité, du travail social. On aura souvent des cuisines, des restaurants, des bars, parce que l'alimentation, bah, qui est déjà un énorme vecteur de transition écologique, hein, la question du manger. C'est un endroit où on peut faire le lien entre les questions écologiques et les milieux plus populaires. Le jardinage, le fait d'être dehors, de profiter, de se sentir bien, de faire des goûters d'anniversaire, de faire ensemble physiquement. Donc, on a toujours des ateliers de bricolage participatifs avec les familles, les écoles, les enfants, des grands événements, faire des rituels, les rituels du quotidien, le petit bonjour du matin, le café offert, et puis des temps un petit peu plus larges. Et une fois qu'on a nos lieux et nos usages, nous, on a tout un ensemble de pratiques qu'on pourrait appeler des technologies sociales qui permettent de susciter cette mobilisation des riverains et des parties prenantes, à nouveau pour toujours éviter la posture passive. Nous, on veut pas que les personnes, enfin, qu'elles soient dans nos lieux, à la lisière des lieux, se considèrent comme bénéficiaires ou clients. On veut qu'elles se sentent engagées dans une forme de co-soin, de co-gestion, de co-production de ces espaces communs. Et oui, après, bah, je pourrais vous parler des modèles économiques, de comment est-ce qu'on finance ça, parce que globalement, on l'autofinance, mais je voulais plutôt terminer par une chose qui est la question des temporalités. C'est vraiment, là encore, dans toute forme de politique publique ou d'axe. Aujourd'hui, dans les écoles d'architecture, on apprend à construire des bâtiments pour toujours. On n'apprend pas à faire pour 3 ans. Et nous, on ne compte jamais en euros par mètre carré, on compte en euros par mètre carré par an. Et on doit apprendre à avoir ce qu'on appelle des spirales dynamiques. Il faut regarder le long terme, évidemment, et c'est le rôle de l'État et d'une société de s'organiser pour avoir une vision à long terme. Mais si ce terme est trop long, nous, on a l'impression qu'en tant qu'animaux vivants, on a du mal à se projeter dans trop longtemps. Et c'est un peu le drame de l'urbanisme, c'est des opérations qui durent trop longtemps. Et les habitants des quartiers, enfin, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et on doit avoir des boucles courtes. Donc, en même temps qu'on regarde loin, on fait voilà une espèce de spirale. Je ne sais pas si vous avez l'image, un truc qui tourne, mais en fait qui monte en même temps. Mais et pour nous, une boucle courte, c'est quelques semaines ou quelques mois. Il faut que toute quand on prend un avis des personnes, qu'on fait une réunion, il faut que la transformation, enfin, il faut que ce qui a été dit dans cette réunion est une matérialisation palpable, appréhendable, à échelle de quelques mois pour créer de l'adhésion. Et si on a de l'adhésion, après on peut faire la communauté et on engage les personnes. Et après, enfin, c'est la question qu'on nous pose souvent, ok, on fait des lieux temporaires et qu'est-ce qui se passe après et vous partez, c'est pas raisonnable. En fait, il y a beaucoup d'héritages. Déjà, 100% des lieux dans lesquels on est intervenu, la programmation urbaine, spatiale, en termes d'usage, a été modifiée, parfois intégralement, parfois juste à la marge, mais lié aux usages que l'on a fait émerger. Donc ça, c'est le premier héritage, il est situé là où on était. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un prolongement de tout ce qui a été produit. Quand en fait, si vous avez connu Les Grands Voisins, qui est notre projet peut-être le plus grand, il y a un nombre de choses qui sont créées aux Grands Voisins qui ont évidemment continué à vivre quand il n'y avait plus le lieu de Saint-Vincent-de-Paul. Donc les coopérations, l'entrepreneuriat, les communautés créées, elles se prolongent évidemment bien au-delà des mètres carrés qui les ont accueillis. Et enfin, il y a cette notion d'un souvenir commun qui crée c'est un héritage immatériel, mais on parlait, Delphine, t'as cité le parc Foresta, et je vous ai montré 2-3 images, là, c'est 16 hectares dans les quartiers nord à Marseille, qui appartiennent à un privé, qui l'a acheté vraiment pas cher ce terrain, ou sur lequel nous, pendant 6 ans, on a déployé tout ce que vous avez vu, c'était il y a 5 ans, et ce qui s'est passé au dernier conseil municipal de la mandature qui a été renouvelée, donc ils vont pouvoir aller au bout du projet, c'est que ils ont passé une délibe en conseil municipal pour dire qu'ils rachetaient les terrains et tous les titres et même le nom de la délibération, c'est de racheter le parc Foresta. Mais le parc Foresta, c'est un nom que nous, on a inventé, enfin, qu'on a donné à cet endroit, alors que techniquement, juridiquement, il n'est pas un parc, il est un terrain privé non accessible. Et c'est assez magnifique, enfin, moi, quand j'ai vu ça, mais le niveau de joie, de satisfaction dans lequel on est, c'est que le souvenir, la désignation d'un parc, quelque part, vient programmer cet espace, alors qu'il n'était pas dans le PLU, programmé pour être un espace public. Et si la ville va au bout de sa promesse de rachat et d'en faire un parc, on aura eu une sorte de programmation urbaine inversée qui est venue de la société civile, des habitants accompagnés par nous. Voilà, je m'arrête là, Delphine, en espérant que ça fasse écho.
Merci beaucoup, c'était très très riche. Ça a très bien répondu à nos premières questions. Bah, encore un grand merci à toutes et ravie d'avoir fait ce premier atelier retour d'expérience.
Merci beaucoup, bon après-midi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.